7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque semaine avec exceptionnellement une émission pour les plus de 35 ans. Aujourd'hui, peut-on apprendre à tout âge? Si certaines fonctions du cerveau, notamment la mémoire, commencent à diminuer, les émotions jouent aussi un grand rôle dans l'apprentissage, notamment la peur d'échouer. Après 40, 50 ou 60 ans, on a parfois le sentiment d'être trop vieux pour apprendre à parler une nouvelle langue ou à se lancer dans une formation professionnelle. Les voisins, les voisines, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Surtout, racontez-nous comment vous êtes lancés sur le tard dans un nouvel apprentissage, vos difficultés, vos réussites. Surtout, contactez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Mathieu Cassotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en psychologie du développement à l'université Paris-Cité. C'est en fait l'université Paris-Descartes, au laboratoire Lapsidé, qui est très connu dans le monde pour les formations scientifiques, cette université. Nous sommes aussi en ligne avec Ariane Fréhel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice nationale de la formation du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. C'est la référence en France pour apprendre tout au long de la vie. Jean-Claude Hénaff sera aussi au téléphone avec nous tout à l'heure. Cet agriculteur retraité a créé en Bretagne une université du temps libre, antenne d'un réseau présent partout en France. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, il répond à une question d'auditeur sur la violence dans la fratrie. Dans le cadre de chroniques consacrées aux violences familiales, une série à retrouver en podcast. Et bien sûr, vous avez la parole pour apprendre tout au long de la vie. 33 7 64 45 51 41. Allez, je vous lis quelques réactions de voisines, de voisins. Ndak, qui a 76 ans à Dakar. Non, l'apprentissage n'est pas l'apanage des jeunes. À mes 50 ans, je me suis mise à apprendre l'anglais par nécessité. J'habitais aux États-Unis. Évidemment, c'est plus facile quand on a 20 ans, mais si vous avez la volonté, vous pouvez réussir. Je viens de me mettre à apprendre l'espagnol avec Duolingo. Mariama a 23 ans, Libreville. Elle a passé un Master 2 en qualité, hygiène, sécurité, environnement, ce qui est normal à son âge. Mais elle nous dit que dans son école, il y a des personnes en Master 1 qui ont plus de 40 ans. Il y a un monsieur, nous dit Mariama, je pensais qu'il était prof. En fait, c'est un étudiant. Son entreprise lui a demandé de se former et il dit c'est bien plus difficile. Bourgeois, à 30 ans, il est à Palau, Tchad. Mon père a arrêté ses études après la licence, mais il a repris ses études. Il a obtenu son master à 58 ans, il y a 2 ans donc au Tchad. Il était content d'apprendre avec Internet, mais il dit qu'il a eu du mal à terminer. Alors je l'ai aidé, je lui faisais des recherches. Je lui ai fait aussi la saisie de son mémoire parce qu'il me dictait. Il était tellement fier quand il a présenté son mémoire. Marc est à Abidjan et nous dit « Faute de moyens financiers suffisants, j'ai dû interrompre mes études supérieures il y a une trentaine d'années. Ces moyens financiers ne se sont pas améliorés, mais à bientôt 60 ans, je serais prêt à retourner en cours dès demain si je pouvais, si une école me le permettait. Je voudrais étudier l'histoire, les maths, la physique, la chimie. » Incroyable hein, quand même, l'appétit de Marc. Et puis Mariana aussi, 45 ans à Madagascar. « Moi j'apprends ce qui me passionne, comme faire le plan d'une maison avec un logiciel de dessin, comme Archicad. C'est essentiel pour remettre à jour mes connaissances. C'est difficile, il faut prendre plus de temps, répéter plusieurs fois par jour, sinon on oublie, sans compter la fatigue visuelle. » Et les cheveux blancs. Voilà, merci pour cette petite note d'humour. Mariana, 45 ans, écoutez aussi le message de cette voisine.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. C'est la voisine Arlette de Pointe-Noire. Voici mon histoire. En première année à la fac, dans l'amphithéâtre, il y avait un mélange des adultes et des plus jeunes. Les adultes qui avaient plus de 30 ans, des salariés, ils étaient au nombre de 4 ou 5. Mais il y avait un problème. Nous apprenions plus vite. Nous étions des machines en maths, physique, chimie. Tous, nous étions investis avec appétit. Les jeunes étaient curieux, vivants. Il y avait une liberté d'expression. Mais du côté des adultes, ils étaient tous figés. Leurs résultats des partiels étaient nuls. Malgré le travail en équipe, malgré les échanges entre nous, l'entraide, la transmission des connaissances, Je vous dis qu'ils ont fait l'objet des moqueries. Et un camarade à nous avait même son tuteur parmi ces adultes salariés dans l'amphithéâtre. Finalement, tous ont jeté l'éponge. Un seul a persévéré et a pu décrocher la licence. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que c'était anxiogène d'être mélangé dans la même classe que les plus jeunes? Est-ce qu'il y avait un problème de capacité de concentration qui n'était pas la même? Est-ce qu'il y avait un problème dans les dysfonctions, dans les enseignements? Pourquoi le décalage entre les jeunes et les plus de 30 ans alors qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre? Au revoir les voisins et à bientôt.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
Bon, peut-on apprendre à tout âge? Vous avez entendu les témoignages, les récits, les histoires des auditeurs Mathieu Cassotti et la question aussi d'Arlette. Globalement, ils disent tous, c'est possible, mais c'est plus difficile, il faut plus de temps, il faut plus de concentration, certains échouent. Qu'est-ce que vous pouvez répondre notamment aux questions d'Arlette?
Alors déjà, on va clarifier, effectivement, répondons à la question d'emblée, oui, on peut apprendre à tout âge. Comme ça, au moins, on est tranquille, on l'a dit une bonne fois pour toutes. Maintenant, effectivement, il va y avoir des fenêtres de plasticité cérébrale, c'est-à-dire des moments, en fait, dans la vie où ça va être plus facile que d'autres pour pouvoir apprendre. C'est le cas, par exemple, des bébés. Vous prenez les bébés, ils vont apprendre énormément de choses pendant leur première année de vie, leur deuxième année de vie, et j'ai envie de dire, toute l'enfance, en fait, est une fenêtre de plasticité particulière. C'est aussi le cas de l'adolescence. L'adolescence, c'est aussi un moment où on apprend énormément de choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que passer 30 ans, 35 ans, 40, je viens d'avoir 40 ans, donc je suis très heureux de pouvoir vous dire que oui, après 40 ans, je vais continuer à apprendre des choses.
Mais on n'est pas capable de le faire. Votre mémoire a commencé à décliner, Mathieu Cassotti, à 40 ans?
Je ne crois pas. Elle va décliner si je ne l'entraîne pas. Et donc, la question de savoir, effectivement, si je vais m'entraîner, va avoir des effets véritablement sur ma mémoire. Après, si je la mesure finement en laboratoire, peut-être que je pourrais trouver que je suis un peu moins bon que je ne l'étais. Maintenant, faut distinguer deux types de mémoire et surtout deux types d'apprentissage. Les enfants, pendant les premières années de vie, ils ont ce qu'on appelle un apprentissage implicite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'apprendre. Ou en tout cas, ils ne vont pas mettre en place des stratégies particulières pour apprendre, ce que nous on est capable de faire. Si vous voulez apprendre une langue, vous n'allez pas juste vous poser dans votre canapé et écouter l'espagnol ou l'anglais. Ça peut vous aider à identifier certaines choses, mais vous n'allez pas réussir véritablement à apprendre la langue comme ça. Vous allez devoir vous mettre dans une démarche active, faire des cours, essayer effectivement de mettre en place des stratégies. Ça, c'est une mémoire explicite. Donc, les enfants vont avoir une mémoire implicite extraordinaire.
Notamment les bébés. Le bébé ne se dit pas « j'ai très envie d'apprendre à parler ».
Alors, on ne sait pas précisément ce qui se dit, mais a priori, il va capter les signaux, il va apprendre des choses, il va avoir d'étonnantes capacités justement d'apprentissage qu'on va perdre progressivement, mais ça je pourrais revenir dessus sur la question du langage, mais en réalité effectivement il se dit pas, pour apprendre ça il faut que je mette de côté en fait ces deux éléments, que je fasse très attention à ça, que je répète mentalement les choses, que j'écrive les choses, vous voyez, toutes ces stratégies de mémorisation dites intentionnelles, on les apprend en fait, c'est très culturel en fait, c'est vraiment des outils de la culture qui nous permettent en fait d'avoir un apprentissage beaucoup plus efficace. À l'école, bien sûr, vous avez des enfants, au départ, ils vont apprendre la poésie de façon complètement implicite, et certains vont réussir, d'autres ça va être un peu plus compliqué, mais ils vont pas forcément mettre en place ces stratégies de mémorisation. Et tout l'enjeu de l'éducation, c'est de transmettre justement ces outils qui nous permettent de développer un apprentissage beaucoup plus efficace et qui nous permettent de dire « Ok, ce texte-là, il est long. Si je le regarde juste comme ça et qu'on me dit « ça n'a pas fonctionné », mais si je mets en place des stratégies particulières, je vais pouvoir répéter, je vais pouvoir m'auto-tester. L'autotest est extrêmement important. Je vais pouvoir écrire pour certains, etc. » Il y a tout un tas de stratégies qui vont nous permettre de mieux apprendre.
Vous avez entendu les témoignages des voisines et des voisins. Beaucoup disent « c'est plus long, c'est plus lent, c'est plus difficile ». Et voire même Arlette disait, il y a un problème de capacité de concentration et c'est presque anxiogène quand on est mélangé avec des plus jeunes, comme si les difficultés qu'ils ressentaient, que les personnes seniors ressentent, apparaissaient comme plus insurmontables finalement.
Alors oui, on va trouver dans les résultats de la recherche des difficultés d'attention, mais qui vont décliner vraisemblablement un peu plus tard que 35 ans. C'est-à-dire que si vous prenez des personnes de 35-40 ans et vous les comparez à des jeunes, que ce soit pour l'acquisition d'une langue, par exemple, en fait, vous n'avez pas vraiment de différence.
Quand vous dites plus tard, c'est à partir de quand, alors, la concentration?
Alors ça, c'est à partir de 50-55 ans. Et puis, la concentration, ça ne veut rien dire non plus. Ça dépend aussi de l'élément qui vous motive, en fait. Et la concentration, elle est aussi motivée par quelque chose. On a à l'université des personnes qui ont 55 ans, et je peux vous assurer qu'elles sont capables de se concentrer mieux que des personnes plus jeunes. Donc, il y a de grandes différences interindividuelles. Donc, faire des généralités comme ça, dire à 35 ans, ils se concentrent moins que les jeunes, ça n'a pas vraiment de sens.
La lenteur qui était évoquée dans plusieurs témoignages.
Ça, le temps, par contre, c'est important. Le temps, c'est important un peu plus tard, hein, vraiment à partir de 50-55 ans. Il y a effectivement des processus cognitifs qui vont prendre un peu plus de temps chez les personnes âgées. Deux types de processus. On a d'abord les processus de contrôle. Donc, tout ce qui nous permet de résister à des automatismes, en fait. On va avoir un petit peu plus de difficultés à les mettre en place. Et donc, ça va demander un petit peu plus de temps. Maintenant, et pareil, par exemple, c'est tout un tas de travaux sur la question de la créativité qui ont montré que si on contraignait le temps, ils étaient un peu moins bons, les personnes un peu plus âgées. Mais si par contre, on leur laissait un tout petit peu, quelques minutes de plus, ils étaient aussi bons en fait que les adultes, j'ai envie de dire, beaucoup plus jeunes.
Comment le cerveau compense les pertes de capacité, les pertes d'attention, la diminution de la mémorisation? Par quoi la personne, on va dire, alors dans ces cas-là, puisque vous semblez insister plutôt sur la tranche 50-55 ans, par quoi on compense?
On a plein de façons en fait de compenser. Le cerveau, faut vraiment pas le voir comme quelque chose de statique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et quand je dis bouge, c'est vraiment son anatomie. C'est-à-dire que vraiment les connexions cérébrales vont changer en fait au fur et à mesure du temps, vont progresser de manière fulgurante pendant l'enfance, vont ensuite au cours de l'adolescence, va y avoir tout un processus d'élagage. Donc c'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est juste une augmentation des connexions. En réalité, il y a aussi un élagage, donc une sélection des connexions pertinentes. Et pendant l'âge adulte, bien évidemment, on va avoir quelques difficultés, mais notre cerveau va toujours être plastique. Si je vous apprends à jongler, vous n'avez jamais jonglé de vos vies, je vous apprends à jongler, on va pouvoir voir en IRM qu'il y a des changements au niveau de l'anatomie cérébrale.
En imagerie médicale,
on va pouvoir voir véritablement que votre cerveau a réagi en fait à cet entraînement et a changé. Et on s'est rendu compte que chez les personnes un petit peu plus âgées, donc au-delà de 55 ans, ils jonglent un tout petit peu moins bien, ils ont besoin un tout petit peu plus de temps, mais ces changements de plasticité, ces changements au niveau cérébraux, on est capable de les identifier quand même. Donc les mécanismes de compensation, ils vont vraiment être essentiels par rapport à deux choses. L'entraînement, il faut s'entraîner. Si vous n'entraînez pas votre mémoire, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai arrêté par exemple, je note tout dans mon agenda maintenant. Avant, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, je notais rien dans mon agenda et je stimulais ma mémoire. Et il m'est arrivé ces derniers temps d'oublier quelques rendez-vous. Donc, je note tout. C'est très bien, ça me permet de plus oublier mes rendez-vous. Mais par contre, comme je n'entraîne plus ma mémoire, ça devient plus compliqué. Parce que si je vous entraîne à jongler, vous allez être fort. On va voir ces changements de plasticité. Mais si vous arrêtez de jongler, eh ben, là aussi, on va voir effectivement que ces spécificités dans votre cerveau vont disparaître. Donc, l'entraînement est essentiel. Et la dernière étape qui est fondamentale, c'est la question de la connaissance. La richesse, en fait, que vont avoir les personnes plus âgées, c'est leur expérience.
L'expérience de vie.
L'expérience, leur expertise, toutes ces connaissances qu'ils ont accumulées, leur permettent, dans certaines situations, effectivement, de mieux s'en sortir que les plus jeunes.
Vous avez évoqué la créativité. En quoi ça joue dans les processus d'apprentissage ?
Ça joue pas forcément dans les processus d'apprentissage, mais j'ai parlé de la créativité parce qu'on vient de faire une découverte en fait dans mon laboratoire à laquelle on s'attendait pas en fait. C'est-à-dire qu'on était persuadé quand vous pensez créativité dans une entreprise, la plupart du temps on vous dit prends des jeunes moins de 30 ans, c'est là où ça va être le plus dynamique, c'est là où ça va fonctionner.
D'ailleurs, créativité dans le sens recherche de solutions. Hein.
C'est capacité à trouver des solutions nouvelles, originales à des problèmes qui se présentent en fait. Et on s'est rendu compte en fait en testant des personnes âgées, on était persuadé que avec le déclin cognitif, les difficultés à se contrôler, ils allaient être beaucoup moins bons en fait que ces jeunes. Mais c'est pas du tout en fait ce qu'on a observé. C'est exactement l'inverse en fait. On s'est rendu compte que les personnes, et là c'est des personnes âgées de plus de 65 ans, sur des problèmes de créativité assez simples, on leur propose en fait de lâcher un œuf d'une hauteur de 10 mètres et de trouver le plus de solutions possibles pour faire en sorte que cet œuf ne casse pas. Donc c'est une tâche de résolution de problèmes très simple. Il y a plein d'idées normalement qui vous viennent à l'esprit et ces idées elles sont pertinentes mais elles sont pas originales. Et donc il faut sortir en fait de ces automatismes de résolution de problèmes. Bon bah on a pu montrer que tout le monde en fait était bloqué sur des solutions qui étaient pas très créatives, sauf les personnes âgées. Les personnes âgées dès le départ, dès les premières solutions en fait, ils sont intuitivement capables de générer quelque chose de plus original que ce que font les plus jeunes. Pas parce qu'ils sont meilleurs pour contrôler, mais parce qu'ils ont mis en place ce mécanisme de compensation et qu'ils ont une expérience de vie et des associations qu'ils sont capables de faire qui sont beaucoup plus larges. Donc, on a pu en montrer que non seulement les personnes âgées n'étaient pas moins bonnes, mais elles étaient même meilleures, mais meilleures intuitivement. Ce n'est pas dans leur capacité de contrôle.
Vous restez avec nous, Mathieu Cassotti. C'est sacrément passionnant ce que vous nous racontez. Ariane Fréhel, vous êtes en ligne avec nous du CNAM, donc le Conservatoire National des Arts et Métiers. Au CNAM, à partir de quel âge on est senior?
Alors, on considère les seniors à partir de 50 ans. Donc, on les différencie de l'ensemble des élèves du CNAM, dont la moyenne d'âge est plutôt 33 ans. Et on a fait des études plus particulières sur nos élèves de plus de 50 ans qui représentent 1 sur 10 de nos élèves.
Mmh. Vous avez entendu ce que racontait Mathieu Cassotti, vous avez été surprise ou pas ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Nous, on observe que les élèves de plus de 50 ans ont d'excellents résultats. Donc, ils obtiennent leur diplôme. Donc, on peut apprendre à tout âge, on peut se former, on peut arriver à un diplôme. Mais par contre, c'est vrai que parfois, on va mettre un peu plus de temps parce qu'on a constaté que nos élèves de plus de 50 ans déclarent passer plus de temps sur leurs enseignements que la moyenne des élèves du CNAM qui dit passer à peu près 4 heures de temps personnel sur son enseignement, alors que les plus de 50 ans y passent 5 heures par semaine.
Alors, c'est peut-être l'occasion de parler de la gestion des émotions. Quand on passe plus de temps, est-ce que ça génère un sentiment de découragement chez ces personnes qui se rendent bien compte qu'elles sont plus lentes par rapport à des personnes plus jeunes, Ariane Fréhel ?
Je ne crois pas. Les auditeurs de plus de 50 ans du CNAM sont incroyablement motivés, engagés. Je pense que quand ils viennent chez nous, ils ont décidé en fait, de se lancer dans un projet de formation parce qu'ils ont des objectifs. Et cette motivation pour arriver à leur objectif d'obtenir un diplôme, d'approfondir leurs connaissances ou de se reconvertir, eh bien, ça les maintient dans une capacité à apprendre et à ne pas se laisser décourager par des difficultés, des moins bonnes notes ici ou là.
Vous parlez d'auditeurs, mais on peut passer des diplômes du supérieur jusqu'à n'importe quel âge au CNAM ?
Tout à fait. On a des auditeurs de tous âges, même des retraités.
Oui. Et pour la plupart d'entre eux, c'est pour rester quand même dans l'emploi ou pour réussir sa reconversion professionnelle ? Donc, rester dans l'emploi, donc ?
Absolument. Les personnes qui viennent se former chez nous ont vraiment trois grandes raisons. Enfin, les personnes de plus de 50 ans, en tout cas, mais c'est à peu près les mêmes raisons d'ailleurs que les jeunes. C'est vraiment approfondir leur expertise professionnelle. Mathieu disait, ils ont une expérience, ils ont une richesse de tout ce qu'ils ont vu et ils souhaitent l'approfondir, persévérer, creuser dans leur domaine de compétences. Ou ils ont une expérience qu'ils ont acquise sur le tas, mais qui n'est pas sanctionnée par un diplôme, et ils veulent obtenir un diplôme, une reconnaissance officielle finalement de ces compétences, de ces qualifications qu'ils ont acquises.
Ouais, par la validation des acquis de l'expérience.
Tout à fait. Ils demandent des validations de leurs acquis de l'expérience pour obtenir des diplômes. Et aussi le système de reconversion, donc des personnes qui sont contraintes de changer d'emploi au milieu de leur carrière et qui vont se former dans un domaine complètement différent de ce qu'ils faisaient avant.
Dernière question, Ariane Fréhel, vous avez entendu l'expérience en laboratoire décrite par Mathieu Cassotti sur la créativité et comment ça balaye un certain nombre d'idées reçues. À l'heure où la durée de cotisation doit s'allonger pour arriver à la retraite, les entreprises, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a davantage une politique de formation pour les seniors et une vision, en tout cas, pour le maintien des seniors dans l'entreprise, puisqu'on sait que demain, ça sera essentiel si les personnes doivent travailler plus longtemps et pour partir avec une retraite à taux plein?
Alors, je suis sûre qu'il y a des politiques qui sont mises en place par les DRH pour accompagner les seniors. et pour maintenir leurs qualifications et qu'ils les envoient en formation. Après, ce n'est pas forcément des plans systématiques qu'on va voir arriver au CNAM, puisque nous, on voit plutôt des personnes qui sont là sur leur initiative individuelle. C'est vraiment un choix personnel de se former, de continuer à se former à tout âge et au-delà de 50 ans. Ce n'est pas forcément sur l'initiative et sur le financement de leur employeur qui viennent se former dans notre établissement en particulier.
Merci beaucoup Ariane Fréhel du CNAM, merci d'avoir été en ligne avec nous. Mathieu Cassotti, vous restez avec nous pour répondre aux questions des voisins, des voisines qui reprennent une formation avec plus ou moins de difficultés. Ce qu'on peut apprendre à tout âge et avec quelle méthode aussi, appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole juste après Les Sentiments à l'envers, Youssoufa.
Sentimental, je me cherche un refuge, un pas en avant et soudain tu recules. Je suis fébrile et parfois c'est terrible, ton amour me guérit ou peut-être qu'il me tue. Je préfère les petites causes aux grandes charités, je préfère les grands défauts aux petites qualités. À force de vivre et puis à force de fuir, toutes les choses qu'on esquive finissent par arriver. Moi j'ai pas gagné grand chose à côté de vous, en vrai l'amour c'est surcoté de fou. Encore un leurre pour que les hommes pleurent, plombés par leurs erreurs qu'ils ne tiennent plus debout. Si notre terre est ronde, faut vraiment que je la traverse, car c'est de mon côté qu'on a la tête à l'envers. À force de me perdre, j'essaie de remettre tout ce que je t'aime dans le bon sens. Les sentiments à l'envers. Comment j'étais avant nous deux? Étais-je heureux avant d'être amoureux? J'ai fait le tour de tes chansons d'amour. Pour moi, tout ce qui est lourd te paraît langoureux. Dans ma semaine, tous les jours sont dimanches. Aujourd'hui, la haine, demain, on se complimente. Bouger la tête et puis trouver la paix. Et puis toute ma peine sera ma confidente. J'ai tellement de choses à te dire que t'ignores. Y'a tellement de questions pour moi que tu portes. Te dire au secours avec de grands discours. Mais au final, je t'envoie un texte où tu dors. Pas besoin d'ennemis, mes amis me détestent. Pas besoin d'amis, t'es la seule qui me reste. À force de me perdre, j'essaie de remettre tout ce que je t'aime dans le bon sens. Les sentiments à l'envers.
Milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI, nous parlons éducation comme chaque semaine avec cette question aujourd'hui qui suscite énormément de commentaires de la part des voisins et des voisines. Peut-on apprendre à tout âge ? Message de Mamadou à Dakar, à 50 ou même 65 ans et plus, il est possible d'apprendre. Regardez les présidents américains, Joe Biden, il doit apprendre tous les jours. Alors il y a quand même des mauvaises langues qui s'expriment sur Joe Biden.
Oh, bien sûr, il y a toujours des stéréotypes sur les personnes un peu plus âgées et sur leur réactivité, leur énergie. Maintenant, il y a un certain nombre de métiers où ce qui est important, c'est l'expérience. Et donc, bien évidemment, pour avoir de l'expérience, il faut du temps. Et on a plutôt en politique dans les chefs d'entreprise l'idée d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes ne savent rien faire, mais si vous cherchez l'expérience, il faut avoir le temps de pouvoir développer cette expérience.
Mathieu Cassotti, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, vous êtes chercheur en psychologie du développement à l'université Paris-Cité, au laboratoire Lapsidé. Un message de Jean-Pierre, 62 ans, à Kinshasa. Je continue à me former avec les médias, la lecture. Je suis tombé amoureux de la RFI qui me donne l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses grâce aux émissions. Ben là, aujourd'hui, vous êtes servi, Jean-Pierre, avec Mathieu Cassotti. À la télé, je suis branché sur des choses grâce aux émissions d'information, aux documentaires qui ajoutent un plus à mes connaissances et j'ai fait l'effort de maîtriser l'informatique. Une auditrice aussi nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Inès est en ligne avec nous de Brazzaville. Bonjour Inès.
Bonjour.
Inès, vous êtes psychologue et vous vous formez en permanence, avez-vous dit, à Delphine au Standard.
Oui, oui.
On vous écoute, Inès.
Oui. Merci beaucoup. Je suis Inès. Je suis psychologue clinicienne. J'évolue aussi à CHU de Brazzaville. Je me forme beaucoup. Et à peine hier, je viens de soutenir mon master en santé publique. Comme option, c'est la promotion de la santé et la santé communautaire. En fait, ce n'est pas facile hein, de concilier le travail avec la recherche.
Mais vous avez quel âge, Inès? Vous avez quel âge?
J'ai plus de 40 ans. De 40 ans.
Plus de 40 ans, d'accord. Oui. Et vous venez d'obtenir votre master?
Oui, master en santé publique hier.
Hier, mais déjà, bravo, oui. Félicitations.
Merci beaucoup, merci.
Comment vous avez fait? Quelles ont été vos difficultés? En dehors du fait de concilier le travail et les études, mais ça peut aussi être une contrainte pour des personnes de moins de 30 ans. Mais quelles ont été vos difficultés à plus de 40 ans, Inès, en quelques mots?
À plus de 40 ans, les difficultés, c'est le temps. Le temps de terminer avec le service, aller à l'école. Je commence tous les jours de lundi à samedi, de 15h à 20h30. Avec des pauses de 10 minutes. Et quand je rentre, je dois me préparer pour les évaluations et les devoirs. Et chaque samedi, on avait évaluation. Et les cours qu'on faisait, c'était des cours... c'est vous qui préparez le cours, en fait. Les classes inversées, comme on dit. Donc, il faut faire des recherches. Et des recherches datant de 2 ans. Il fallait avoir des recherches récentes pour venir exposer en salle. Avant que le professeur ne dispense son cours.
Et le matin, vous vous levez à quelle heure, Inès?
Le matin, je me lève à 5 heures. Je m'occupe des enfants qui vont à l'école, qui quittent la maison à 6 heures. On quitte ensemble. Je les dépose à l'école. Je viens au travail. Je finis à 14 heures. Je viens à l'école. On commence à 15 heures. Je finis à 20h30. Je rentre à la maison. Je m'occupe des enfants, des devoirs. Et après, je me mets à travailler jusqu'à 2 heures du matin, voire 3 heures.
Waouh! Oui.
Et je quitte le lit à 5 heures, et comme ça pendant 3 ans.
Bon, ça, il me vient une question, Inès, que je vais poser à Mathieu Cassotti. Merci en tout cas d'avoir témoigné. Et bravo encore pour ce master en psychologie que vous avez obtenu hier. Inès, vous étiez en direct de Brazzaville. Mathieu Cassotti, est-ce que, Inès le disait, comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, on met plus de temps à apprendre. Est-ce que l'endurance, parce que là, on a vraiment un cas d'endurance hein, pour Inès, qui a des journées extrêmement longues, une semaine extrêmement longue, 6 jours sur 7, est-ce que l'endurance peut compenser le temps pris pour être dans un mécanisme d'apprentissage?
Le problème, c'est qu'on apprend bien quand on est concentré sur une tâche. Et c'est pour ça que aussi les plus jeunes, quand ils sont uniquement concentrés sur ce qu'ils font à l'école, ils ont beaucoup plus de temps, en fait, à consacrer à leurs apprentissages. Lorsque, dans le cas d'Inès, la difficulté, c'est qu'elle est en double tâche permanente. C'est-à-dire qu'elle est en permanence en train de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de son travail. Et ensuite, quand elle est crevée et le sommeil et la fatigue, on sait que c'est pas... le top pour pouvoir apprendre, eh ben elle se retrouve à devoir cette fois-ci, du coup, se remettre à travailler. Donc vous voyez, même si ça prend plus de temps, c'est aussi parce que la vie, en fait, des personnes plus âgées est très différente de celle des plus jeunes, même si les plus jeunes à l'université ont aussi des contraintes parce qu'ils ont un job à côté, et on sait que quand ils ont un job à côté, ils réussissent beaucoup moins bien. Donc si on remettait, en fait, toutes les contraintes qu'ont les adultes de plus de 30 ans qui ont une famille, qui ont un travail et qui ont un loyer à payer, etc., et qui, en plus de tout ça, en plus d'un travail à temps plein, doivent se remettre dans leurs études, effectivement, peut-être que les plus jeunes auraient encore plus de difficultés. Donc, au-delà des difficultés cognitives, il y a aussi des difficultés environnementales qui ne sont pas propices.
Il faut du sommeil hein, pour apprendre. Nous sommes en ligne avec Jean-Claude Hénaff. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un agriculteur retraité. Vous avez créé il y a près de 20 ans en Bretagne une université du temps libre. Jusqu'où vous aviez été, vous, dans vos études à l'époque?
Eh bien, j'ai été en secondaire pendant 3 ans, c'est-à-dire la 6e, la 5e et la 4e. Et à cette date, j'avais donc passé le certificat d'études primaires, qui était la sanction, vous savez, des études des élémentaires. Et donc, comme j'avais réussi à cet examen, je l'ai considéré à tort, et mes parents allaient dans ce sens, que j'avais fait assez d'études pour devenir agriculteur. Et bien entendu, très rapidement, dans la vie active, je me suis rendu compte que c'était un peu maigre. J'avais quelques carences, et notamment lorsque j'ai été amené à prendre des responsabilités dans le milieu agricole.
Oui, vous avez été vice-président de la Chambre d'agriculture de votre oui. département, les Côtes d'Armor. Et donc, en fait, après, une fois que vous avez été à la retraite à près de 60 ans, vous avez eu une deuxième carrière, finalement, de retraité en apprentissage. Et c'est comme ça que vous avez fondé une université du temps libre ?
Oui, je m'étais rendu compte donc que j'avais des déficiences de formation et je me disais que la période de la retraite était sans doute l'une des périodes les plus propices à un rattrapage, non pas scolaire, parce que évidemment on n'a pas les mêmes dispositions pour apprendre à cet âge-là, mais ça peut être un complément ludique en fait, qui permet à un maximum de personnes désireuses de se perfectionner, eh bien, d'acquérir des connaissances.
Quelle est la moyenne d'âge dans une université du temps libre, puisqu'il y en a un peu partout en France, hein. On vient en auditeur assister à des conférences sur tous les sujets possibles et imaginables.
Oui, tout à fait. Eh bien, la moyenne d'âge tend à augmenter, puisque la durée de vie augmente, oui. heureusement. Et donc, quand j'étais président de cette université, la moyenne d'âge était de 67 ans. Mais le temps a augmenté un peu.
Qu'est-ce que les seniors retirent, racontent de leur expérience ?
Eh bien, la plupart d'entre eux ont été enchantés de l'initiative et ont essaimé, c'est-à-dire qu'elles ont fait connaître autour d'elles l'existence de ces structures, de cette université du temps libre, et donc incite d'autres personnes arrivant à la retraite maintenant à y participer. Et globalement, on peut dire que dans le milieu rural, cette initiative a eu un grand succès et perdure donc actuellement.
Et vous-même, Jean-Claude Hénaff, vous avez quel âge aujourd'hui ?
84 ans.
Et vous avez le sentiment de continuer à apprendre ?
Ah oui. J'ai appris, figurez-vous, que nous avons mis en place, il y a 20 ans maintenant, un atelier qui s'appelait Conversation franco-britannique. Nous avions beaucoup d'Anglais qui étaient venus acheter des résidences en Bretagne. Et ces Anglais avaient un besoin impératif d'apprendre le français. Et nous, on avait aussi un besoin d'apprendre l'anglais pour différentes raisons. Et donc, on a constitué un atelier où 40 personnes, entre 30 et 40 personnes par semaine, le jeudi matin, pendant une heure et demie, échangeaient en anglais et en français. Et donc, j'ai appris, à ce moment-là, à converser, mais simplement par des échanges sur la vie quotidienne avec des Anglais, ce qui a été pour moi quelque chose de formidable.
Vous n'aviez jamais appris l'anglais à l'école, donc vous avez appris...
Si, j'avais fait
un petit peu.
Ouais, un ouais. tout petit peu.
Ouais, mais... Au début du collège. Vous avez appris l'anglais, du coup, à quel âge, Jean-Claude Hénaff ?
À 65 ans.
Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et bravo à vous, 84 ans en direct chez 7 milliards de voisins. Peut-on apprendre à tout âge ? Voilà, on a quelques éléments de réponse depuis le début de l'émission, Mathieu Cassotti. Il faut qu'on laisse aussi la parole à Salimata, qui est une auditrice qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Salimata. Salimata,
allô.
Oui. Bonjour Salimata.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Vous avez 61 ans, vous avez fondé une association de lutte contre l'électronisme et l'illettrisme. Et vous avez une question précise à poser à Mathieu Cassotti. On vous écoute Salimata.
Bonjour Mathieu. Donc je vous appelle pour comment convaincre les femmes et les jeunes de plus de 45 ans victimes de l'électronisme d'apprendre à lire, à écrire, à utiliser les outils numériques pour pouvoir faire leurs démarches administratives.
Vous semblez dire qu'il y a un blocage, un manque de motivation pour utiliser les outils numériques pour être ensuite autonome dans les démarches administratives ?
Oui, effectivement. Bon, la plupart des femmes et des jeunes se disent « Oh, maintenant les carottes sont cuites, je ne peux plus apprendre à lire, à écrire, à utiliser les outils numériques. » Donc, ce n'est vraiment pas la peine. Donc, je souhaiterais savoir comment
convaincre ces personnes afin que l'association même puisse bien communiquer entre nous et oui. aussi pour pouvoir faire nos démarches.
Et merci Salimata, parce que c'est une très bonne question et il n'y a pas que chez les seniors. Le digital provoque des blocages chez les personnes plus que d'autres sujets, plus que d'autres matières. Comment on peut expliquer ça, Mathieu Cassotti? Vous évoquiez en début d'émission, chez les personnes à partir, on va dire, des cinquantenaires, 50-55 ans, une perte de faculté dans les automatismes. Est-ce que c'est justement ces facultés-là qui sont nécessaires pour le digital, les outils numériques?
Bah, ils partent avec un handicap, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de numérique. Donc, c'est des technologies qui ont complètement en fait changé notre façon d'apprendre, notre façon d'interagir et énormément de choses. Et comme apprendre, c'est aussi intérioriser les outils de pensée de sa culture, forcément, c'est une difficulté pour eux de pouvoir utiliser ces outils spontanément. On a tous appris, on oublie qu'on apprend, mais on a tous appris en fait ces outils-là. Donc il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir en fait des peurs de l'échec. Mais ça existe aussi chez les enfants, ça existe aussi chez les adolescents.
Donc c'est l'émotion qui prend le pas sur les fonctions cognitives habituelles, on peut dire ça ?
C'est à partir du moment où vous avez peur d'échouer et peur de ne pas pouvoir apprendre, où vous avez aussi l'idée que vous êtes persuadé que ça ne fonctionnera pas, ça n'a pas fonctionné. La première chose pour apprendre, c'est de pouvoir être capable d'enrôler en fait la personne dans un apprentissage. Donc c'est qu'elle ait envie, qu'elle soit motivée et qu'elle soit persuadée qu'elle soit capable de le faire. Si, mais ça c'est valable à tous les âges de l'envie, si vous convainquez que vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'y arriverez pas.
Et qu'est-ce qu'on peut conseiller alors à Salimata qui voudrait convaincre ces personnes qui disent « c'est trop tard » ?
C'est jamais trop tard. Donc, ça va être compliqué. Ça, il faut pas leur dire que ça va être facile et que ça va être en deux minutes. Et que, bien sûr, ils vont avoir des échecs ou en tout cas des difficultés qui vont apparaître. Mais c'est en persévérant, c'est en travaillant, en s'entraînant qu'ils vont pouvoir en fait développer des compétences. Et vous avez des personnes plus âgées qui sont devenues expertes en fait dans l'informatique et qui ont réussi complètement en fait à s'adapter aux outils numériques. Ça a un coût, tout apprentissage a un coût, ça demande en fait un investissement.
Et du temps.
Et du temps. Et il y a un moment donné, on n'a plus trop envie d'avoir cet investissement, ou en tout cas on est fatigué, on ne souhaite pas le faire, ou on croit que ça ne fonctionnera jamais, mais c'est aussi la question de la tolérance à l'échec. Mais ça, c'est vrai chez les ados, c'est vrai chez les adultes, c'est vrai chez les personnes âgées. À chaque fois que vous allez devoir apprendre, il va falloir accepter que va y avoir ce coup à donner. Vous n'allez pas être capable de jongler demain matin en 30 secondes. Donc, l'informatique, c'est pareil.
Donc il faut entraîner sa mémoire, mais il faut aussi entraîner sa tolérance à l'échec. Hein, pour quand ça devient plus difficile, on sera plus entraîné à accepter l'échec et à recommencer. C'est ça, si je comprends bien.
Il faut travailler sur la tolérance à la frustration. C'est vraiment
On arrive presque au terme de cette discussion. Je vois qu'on laisse la parole pour conclure à une auditrice. Stéphanie, qui a 40 ans, qui est à Lomé. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Stéphanie, vous êtes en reconversion professionnelle?
C'est ça.
Oui, et on vous laisse la parole, il nous reste une minute.
Ok, bon, ben, moi j'ai fait le choix de reprendre des études à plein temps. Après une carrière dans le domaine des relations internationales, j'ai repris des études d'architecture. Donc à temps plein, je vais à la fac avec les autres étudiants. Et voilà, à côté de ma vie de famille, il faut réussir à jongler avec tout ça. C'est pas évident, mais comme l'a dit votre invité, avec la motivation, je pense que c'est vraiment le facteur clé, en fait, qui va aider à la réussite.
Et qu'est-ce que vous observez très précisément sur les méthodes de travail, sur ce que vos difficultés ou pas par rapport à des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans ?
Oui, entre 18 et 25 ans, voilà. Bon, moi, je trouve qu'il y a évidemment le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être à sa place. Et c'est surtout des barrières psychologiques, finalement, qui sont les premières à se présenter. Une fois qu'on les a surmontées avec les premières réussites, moi je suis à la fin de ma deuxième année, donc c'est encourageant aussi et ça permet de donner de l'espoir quoi, pour la suite. Et sinon, en termes d'apprentissage réellement, j'ai trouvé qu'on pouvait être quand même plus efficace dans la façon d'aborder les cours, dans la façon de gérer les révisions et également de gérer l'échec en fait. Je pense que j'ai plus facile de comprendre ce que veut le professeur. Ça va plus vite, quoi, je trouve.
Et vous avez plus.
Et c'est nécessaire parce qu'on n'a pas le temps. À
ouais.
côté
vous êtes la plus âgée. Vous êtes la plus âgée de l'amphithéâtre, Stéphanie.
Oui. Oui, je suis de loin la plus âgée.
Donc populaire ou pas?
Oui, bien sûr. En plus, je suis dans le contexte togolais, donc je suis un petit peu presque la tata ou la maman. Bon, voilà, on m'appelle madame, on me dit vous. Voilà, et il a fallu aussi un peu de temps aux étudiants pour accepter de me parler comme une élève normale, se rendre compte que moi aussi, j'ai des difficultés d'apprentissage, que je ne sais pas tout. Voilà, mais c'était une expérience humaine aussi formidable, en tout cas.
Merci, en tout cas, pour votre témoignage, Stéphanie, en direct de Lomé. Merci à tous les messages. Vous étiez très nombreux à souhaiter participer à l'émission, à poser des questions, à poster vos messages, les voisines et les voisins. Merci à vous, Mathieu Cassotti, chercheur en psychologie du développement à l'Université Paris-Cité, au laboratoire Lapsidé, pour toutes vos lumières sur le fonctionnement du cerveau à tout âge. Merci à vous d'être venu.
Merci à vous pour l'invitation.
Et merci à Ariane Fréhel du CNAM et Jean-Claude Hénaff qui a créé cette université du temps libre en Bretagne. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud. Ça sera juste après cette mélodie du Brésil. Bruna Mendes chez 7 milliards de voisins sur RFI.
Me sinto segura entre seus seios, te leio tão bem, leio tão bem. Cê me tem diz, percorro um mapa inteiro com você, me lê também, que eu te leio tão bem. Jeitinho me faz tão bem, constando o coração e o corpo tão bem, tão zen. Você me dá vontade, de uma vida inteira com você, tanta intimidade, explorando.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, ce sont des conseils du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes au deuxième volet de cette série de chroniques consacrée aux violences dans les familles. Nous allons aborder aujourd'hui la question des violences dans la fratrie entre les frères et les sœurs. Comment se manifestent ces violences et surtout d'où peuvent-elles venir, Ibrahima ?
Disons, Emmanuel, que les conflits dans la fratrie peuvent venir des jalousies. Rappelez-vous encore de l'histoire du prophète Joseph et de ses frères qui l'ont jeté dans un puits pour s'attirer l'attention de leur père Jacob. Ils peuvent aussi naître ces conflits suite à ce que certains enfants peuvent percevoir d'injustice, de favoritisme et donc de discrimination dans le discours, l'attitude, le comportement du ou des parents. Et les aînés peuvent également être tentés, Emmanuel, de reproduire sur les cadets la violence qu'ils ont subie venant des parents. Et dans beaucoup de cas, malheureusement, les parents qui se sont montrés très durs avec les aînés tentent à se montrer plus affectueux avec les derniers.
Oui, preuve que les parents changent eux aussi, tout au long du cycle de la famille.
Tout à fait, parce que le parent apprend. Et malheureusement, cela n'arrête pas la violence pour autant, car les aînés répliquent sur les cadets la violence qu'ils ont endurée et qui est leur seul modèle en fait de référence. Donc ce n'est pas forcément une vengeance indirecte hein, qu'ils appliqueraient sur le parent. C'est parfois plus simplement le seul modèle qu'ils ont en fait. C'est juste une question de modèle. Et enfin Emmanuel, il y a la personnalité même des enfants, qu'ils soient aînés ou cadets, filles ou garçons. Certains, on le sait, sont colériques, d'autres sont violents, certains sont faibles de caractère.
Alors, bien sûr, vous pouvez nous poser des questions. Posez des questions au psychologue Ibrahima Girou, les voisines et les voisins. On vous redonne le numéro de WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Écoutez le message posté par Miss Koulibaly en Côte d'Ivoire.
Moi, mon souci, c'est que je suis colérique depuis mon bas âge. D'après papa, c'est de la faute à maman parce que elle a tendance à parler tout en osant la voix. Donc, je ne sais pas avec certitude que si je tiens ça d'elle ou pas, en fait. Mais à maintes reprises, j'ai essayé d'arrêter ça. J'ai essayé de me contrôler, mais c'est vraiment pas évident. Et lorsque je me mets en colère, j'ai envie de tout casser. J'ignore pourquoi. Je veux tout casser. En fait, c'est comme si j'étais dans un champ de bataille et puis tout ce qui tournait autour de moi là, était fait pour me détruire, en fait. Je veux me contrôler, mais c'est difficile.
Comment vous pourriez interpréter, Ibrahima Girou, l'attitude de cette jeune fille, Miss Koulibaly ?
Emmanuel, je dirais que Miss Koulibaly souffre elle-même d'être sous l'emprise, elle a dit, d'une attitude dont elle n'est manifestement pas fière. Pour trouver une solution, elle a besoin de faire sa propre introspection sur son attitude et son comportement un peu disproportionné hein, quand elle a dit qu'elle a envie de tout casser. Donc disproportionné face aux bêtises de ses frères et de ses sœurs. Et elle doit faire un exercice de sincérité, on l'appelle comme ça, et voir au fond d'elle ce qu'elle rejette vraiment et d'où est-ce que ça peut venir.
C'est pas forcément ses frères et ses sœurs.
Voilà, c'est pas nécessairement la bêtise du frère ou de la sœur. Est-ce que c'est quelque chose de plus profond, Emmanuel, qui peut toucher à sa relation avec ses parents ou de ce qu'elle a vécu et qu'elle n'accepte pas dans son histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à d'autres problématiques? On le voit en général, il y a des problématiques amoureuses ou sexuelles qui ne sont pas assumées et qui viennent créer comme une bulle et qui font qu'on on n'accepte rien et ça empoisonne vraiment les relations dans la fratrie.
Et quel conseil pratique vous pouvez donner à une adolescente ou à un jeune homme qui a des accès de colère, des accès de violence à l'encontre de ses frères et de ses sœurs ?
Tout d'abord, regarder la réalité en face et bien considérer d'où peut venir mon comportement excessif. Parfois, ou même souvent, c'est pour chasser une pensée inacceptable et obsédante que l'on se met dans une bulle comme ça et que l'on n'accepte pas d'être dérangé. Donc, rien ne doit dépasser, vous voyez. Donc, je dirais que Miss Koulibaly ne doit plus se cacher dans sa bulle et qu'elle nomme ce qu'elle n'accepte pas en elle et dans son cœur comme dans son vécu. Ensuite, regarder en face les conséquences de ses réactions disproportionnées et sur ses frères et ses sœurs. Elle pourra, à partir de cette acceptation, elle peut apprendre à faire preuve de compréhension et d'empathie à l'égard de sa fratrie. Et enfin, il ne faut pas qu'elle désespère et qu'elle pense que le mal est déjà fait et que c'est trop tard, qu'elle ne peut plus rien corriger. En réalité, à chaque jour, comme on dit, suffit son aurore. Il y a manifestement, dans le fait que les jours changent, aujourd'hui, demain viendra, il y a un signe pour que les gens ne désespèrent pas, qu'ils sachent qu'on peut toujours améliorer les choses, Emmanuel.
Et la question de la semaine pour nos auditeurs est toujours laisser l'espoir au bout de ces réflexions avec vous, Ibrahima Girou.
Emmanuel, à vous qui vivez les situations que nous venons de décrire comme Miss Koulibaly, ne voyez-vous pas que tenter de changer les choses en pensant que ce n'est pas possible, c'est comme vouloir rouler vite avec le frein à main activé.
Eh bien, nous terminons sur cette métaphore. Merci Ibrahima Girou. Et bien sûr, vous pouvez vous aussi poser des questions au psychologue Ibrahima Girou au 33 7 64 45 51 41. Vous postez vos messages, vos notes vocales. Et toutes les chroniques sont à réécouter en série, limitée ou presque, sur toutes les plateformes de téléchargement en podcast. Merci Ibrahima.
Au revoir Emmanuel.
Demain, 7 milliards de voisins, ne manquez pas notre reportage au Togo sur le confiage des enfants à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Pour comprendre le phénomène du confiage et ses dérives, confiage des enfants, que se passe-t-il dans les familles ? C'est un reportage de Raphaël Constant avec des images aussi à retrouver sur Instagram. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont à réécouter en podcast.